RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF France Ardennes, c'est l'heure du 18-19 et c'est avec Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, ça n'a pas changé, merci de nous rejoindre pour le magazine des vacances de Noël cette semaine et en particulier ce jeudi soir sur RCF Reims-Ardennes, RCF Champagne-Ardennes en DAB+. Un magazine coloré mais toujours un peu spécial qui s'organise entre actualités et meilleurs moments vécus sur l'antenne l'an passé en attendant le lundi 8 janvier, le jour de la vraie rentrée pour cette année 2024. Quelques repères ne bougent pas comme les questions d'économie que l'on pose à Gérard-Marie-Henri, la thématique ce soir, l'inflation. Et comme Captain Midnight est aussi fan de musique, même si l'on le côtoie plutôt à l'accent rock'n'roll, ce soir on lui offre quelques morceaux agrémentés d'explications comme il les aime, en faisant le tour d'Europe des musiques avec le musicologue Francis Albou, qui s'entretiendra avec Jean-Marie Beaupuis. L'actualité, c'est aussi l'avenir de nos jeunes. Que feront-ils à la rentrée de septembre 2024 après avoir passé le bac? Aline Chaffanjon, directrice du campus Séductive Reims, viendra nous présenter non pas une, mais 12 écoles. L'une d'elles est forcément faite pour un jeune que vous connaissez. En cette période de fête, Claude Ruiz nous parle des traditions de Noël et ce soir on ira faire un tour dans les villes. Puis hier, on vous avait fait une promesse, celle de retrouver Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort pour parler sport et chrétienté, l'épisode 2. C'est pour ce soir et c'est aussi par une suite que l'on commence donc avec Gérard-Marie-Henri en ligne depuis la Bretagne. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous le savez, dans cette émission, Gérard-Marie-Henri, il y a un fil conducteur, il y a des gens qui réagissent, qui interagissent avec vos questions et les questions que l'on vous pose. Et la semaine dernière, on a parlé de l'inflation et vous aviez dit que la Banque Centrale Européenne augmentait ses taux pour lutter contre l'inflation. Ça a laissé perplexe certains de nos auditeurs et puis certaines personnes de notre équipe salariée aussi qui se sont dit « Comment c'est possible que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux pour lutter contre l'inflation ?» Ça méritait une explication complémentaire, un petit peu plus claire peut-être. Vulgarisez-nous tout ça, Gérard-Marie-Henri, expliquez-nous mieux les choses.
Donc on essaye de rappeler que l'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. Ça veut dire qu'il y a des prix qui montent et sur le budget des consommateurs, ça va se ressentir, ils vont avoir une perte de pouvoir d'achat parce qu'avec le même revenu, ils ne peuvent pas acheter autant de trucs qu'avant. Donc c'est une situation qui n'est pas bonne, hein. C'est la monnaie qui perd de sa valeur et le gardien de la monnaie dans tous les pays, c'est la banque centrale. C'est elle qui fait en sorte que les gens n'aient pas peur d'utiliser les billets marqués en euros, que le charcutier ou le boulanger accepte ces billets libellés en euros, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. On pense à l'Argentine en ce moment, où quand les gens vont dans un magasin, on leur dit « il faut payer en dollars ». La monnaie locale, on n'en veut pas. Donc la banque centrale, il faut qu'elle fasse en sorte que l'inflation ne grimpe pas. Qu'est-ce qu'elle a à sa disposition comme arme? Ben elle a à sa disposition ce qu'on appelle le refinancement des banques. Moi, quand je vais voir une banque, la banque me prête de l'argent, mais en fait, l'argent qu'elle me prête, c'est pas forcément de l'argent qui était dans son capital. Elle va toutes les semaines demander à la Banque Centrale Européenne, petite rallonge, un prêt, que la Banque Centrale Européenne lui accorde en disant bah, « tu me rembourseras la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans deux mois », il y a un certain nombre de modalités différentes. Mais donc la banque a récupéré de l'argent qui lui a été prêté par la Banque Centrale.
Est-ce que la Banque Centrale Européenne, c'est un puits sans fond, Gérard-Marie-Henri? À un moment donné, elle doit dire stop aussi.
Elle peut créer de la monnaie comme elle veut. Il y a qu'elle qui est capable de créer de la monnaie. Quand elle décide d'acheter des obligations sur le marché obligataire, là on change un petit peu de direction, mais elle crée de la monnaie, elle crée des euros pour acheter des actifs financiers. Et puis après, quand elle les revendra, bah évidemment, elle repompera les liquidités qu'elle a mis dans le circuit. Vous voyez, il y a une sorte de masse monétaire qui tourne, que se prêtent ou se passent les agents économiques qui me permet d'avoir sur mon compte courant de l'argent qui me permet de dépenser. Et toute cette masse monétaire, bah la banque centrale la surveille. Et elle se dit que quand il y a un peu d'inflation, comme en ce moment, quand les prix augmentent de 5%, bah c'est que la masse monétaire augmente trop vite. C'est que les gens ont à leur disposition un peu trop d'argent et donc ils achètent et ça fait monter les prix parce qu'il y a une demande qui est plus importante que l'offre et craque, les prix montent. Donc il faut calmer cette augmentation de la masse monétaire. Comment y arriver? Bah la banque centrale va revenir avec ses banques auxquelles elle prête. Elle va leur dire « je veux bien continuer à te prêter, mais je vais te prêter un peu plus cher. Au lieu de te prêter à 0%, tu me rends ce que je t'ai prêté, maintenant je vais te faire payer 5% d'intérêt. Quand tu me rendras l'argent, il faudra que tu remettes 5% ou plus pour me rembourser. » Et évidemment, les banques, donc, il faut qu'elles gagnent leur vie. L'argent qu'elles ont emprunté à la BCE, c'est de l'argent qu'elles prêtent aux acteurs économiques, aux ménages, aux entreprises. Et elles vont dire aux ménages, aux entreprises, écoutez, maintenant, les taux auxquels je vous prêtais, c'est plus 1%, c'est plus 2, c'est plus 3, ça va être 4, ça va être 5. Et donc, les agents économiques, quand ils voient les taux d'intérêt augmenter, ceux qui étaient prêts à emprunter, ils vont dire, je vais peut-être attendre un petit peu, peut-être attendre que ça rebaisse, parce que pour l'instant, ça fait cher, je vais avoir des intérêts importants à payer, etc. Et donc, ils font pas la décision d'achat qu'ils avaient prévu de faire. Ils vont pas changer de voiture, ils vont pas acheter un nouvel appartement, ils vont pas se remeubler leur cuisine. Et donc ça va faire qu'il y aura moins d'argent en circulation dans l'économie. Et donc l'économie va se refroidir. Et donc les prix vont normalement moins augmenter. Sauf s'il y a, bien sûr, des événements extérieurs, géopolitiques, le pétrole, etc. Là, c'est pas sous la coupe de la Banque Centrale Européenne, mais tout le reste, elle peut intervenir, et c'est ce qu'elle a fait. On était à des taux d'inflation de 8, on est descendu à 7, on est à 6, on est à 5, on est maintenant au niveau de l'Europe à 3, en France, on est un peu au-dessus, mais on a bien la bonne direction, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, en augmentant ses taux d'intérêt, a renchéri le crédit, ce qui a fait que la demande de crédit immobilier, de crédit à la consommation a fortement chuté, ce qui est même un peu inquiétant. Et comme cette demande de crédit a fortement chuté, les gens ont moins d'argent à dépenser et donc l'économie se calme et les prix augmentent moins.
Eh bien Gérard-Marie Henry, on vous avait demandé quelques explications, vous avez été très complet, presque le temps d'une chronique, mais on avait vu aussi la semaine dernière que inflation et pouvoir d'achat étaient liés, notamment avec la hausse au niveau général des prix. On avait parlé des prix, j'allais dire, de l'alimentaire, etc., de l'énergie, mais on a aussi une notion sur la hausse des services, et c'est là qu'il y a une grosse différence par rapport au coût de l'alimentaire ou de l'énergie, où les coûts sont variables et les prix peuvent à la fois monter, baisser, etc. Le spectre peut bouger. Contrairement à cela, lorsqu'on parle des prix des services, eh bien eux, une fois qu'ils ont augmenté, ils ne font qu'augmenter finalement. La courbe ne s'inverse jamais.
J'ai sous les yeux ce que fait l'INSEE. Tous les mois, elle regarde les prix des services. Elle dit en un an, les services ont augmenté de 3,2%. C'est assez raisonnable. Mais, comme Dieu l'a dit, ça ne va pas redescendre. Alors qu'est-ce qu'il y a comme service? Il y a le prix des transports ferroviaires, les transports aériens, les transports routiers, la protection sociale, les services d'hébergement, c'est-à-dire les hôtels, les services récréatifs et culturels, les abonnements à Deezer ou autre chose, les assurances, les entretiens et réparations des logements, les prix des services de communication, l'abonnement sur Internet, etc. Et puis les loyers, l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, les services de santé. Vous voyez que ça couvre énormément de choses qu'on ne voit pas vraiment changer parce que d'une part, c'est prélevé directement. On a généralement un abonnement. C'est pas des prix qui se modifient tous les jours. C'est, on renouvelle son abonnement. Et ben, on se souvient pas exactement combien c'était l'année dernière, c'était peut-être 55 €, cette année ça va être 60, mais ça, on le voit pas. Et donc ça, c'est une inflation qui est fort embarrassante et que surveillent bien sûr les banques centrales parce que on ne revient pas en arrière. Une fois que le tarif de la consultation de l'avocat a augmenté, généralement il va pas vous dire la fois d'après, tiens je vous fais une réduction de 20%. Et donc il faut que ces prix des services restent sages. Or ce sont souvent des prix qui sont liés au coût du travail, c'est-à-dire c'est souvent des personnes qui font directement les services, je pense à la réparation, à l'enlèvement des ordures, enfin tous ces trucs-là. Et donc là, si le coût du travail augmente, ce qui est normal pour essayer de récupérer les pertes de pouvoir d'achat, mais les entreprises qui travaillent dans le nettoyage, dans la sécurité, etc., vont dire, moi je suis obligé d'augmenter mes tarifs parce que mes salariés, on a augmenté fortement le SMIC, et donc ça me coûte nettement plus cher, et maintenant donc je facture un peu plus. Donc on a un problème dans beaucoup de secteurs de services, de la liaison entre direct entre coût du travail et prix qui est fait aux clients.
Gérard-Marie Henry, pour conclure cette chronique avec vous, si les services augmentent et reste à taux, j'allais dire assez haut, que les prix ne font qu'augmenter, ça veut dire que le consommateur, quoi qu'il arrive, il perd en pouvoir d'achat, son pouvoir d'achat baisse.
Absolument, et c'est pour ça qu'il réclame des augmentations de salaire. Alors ce qu'on fait pour les salariés les plus modestes, on a une indexation automatique du SMIC sur l'inflation, mais après, si vous êtes largement au-dessus du SMIC, votre salaire ne va pas forcément tout de suite suivre, et donc on a effectivement, pour certaines catégories de Français, ceux qui sont au milieu, on va dire, pas ceux qui sont en bas de l'échelle qui sont protégés, pas ceux qui sont très hauts, qui de toute façon sont capables d'avoir des augmentations de revenus parce qu'ils ont des actions. Mais par contre, tous ceux qui sont au milieu, le petit prof, etc., ils ont effectivement en ce moment une perte de pouvoir d'achat.
Eh bien, merci Gérard-Marie Henry de nous avoir éclairé sur l'inflation, le pouvoir d'achat, l'augmentation des prix, des services, etc. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine avec de nouvelles actualités. À très bientôt.
À la semaine prochaine.
Et pour ceux qui voudraient retrouver le premier épisode consacré à l'inflation, rendez-vous dans la rubrique Programme sur le site rcf.fr après avoir sélectionnez RCF Reims-Ardennes, votre radio préférée.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Toutes les écoles ne sont pas en vacances en ce moment. Il y a un campus en particulier où ça fourmille sans cesse. C'est le campus Éductive Reims qui accueille aujourd'hui 7 écoles, bientôt 12 à la rentrée de septembre 2024. Sa directrice Aline Chaffanjon est avec nous. Bonjour Aline.
Bonjour Alexis.
Merci d'être avec nous dans les studios de RCF Reims-Ardennes, directrice du campus Éductive Reims. De quoi s'agit-il ?
Le campus Éductive Reims, ce sont 12 écoles regroupées en 3 pôles. Un pôle management, un pôle tech et art. Et pour finir, un pôle média. Nous proposons 3 niveaux de diplôme, donc des BTS en 2 ans, des bachelors en 3 ans et les masters en 5 ans. Et tous nos diplômes sont reconnus par l'État.
On va avoir l'occasion tout au long de cet entretien de découvrir le campus, de découvrir ses formations et comment elles sont dispensées. C'est un campus qui allie histoire et modernité quand même, Aline Chaffanjon, il faut le dire.
Alors oui, tout à fait. Notre campus actuel qui est au 46 rue de la Justice se situe dans les anciens locaux de la maison de champagne Moum. Voilà, donc nous avons un très joli campus, un lieu de prestige. Et puis prochainement, nous allons avoir un nouveau campus qui va s'ouvrir au bout de la rue, donc au bout de la rue de la Justice. Un campus tout neuf de 3 500 m² que nous aurons très prochainement.
Alors, vous nous avez dit qu'il y avait 3 pôles avec différentes formations. Peut-être pas présenter les 12 écoles, mais quelques-unes d'entre elles qui sortent du lot, peut-être aussi par leur popularité, parce qu'elles sont fort demandées par les étudiants, etc.
Alors, par exemple, on peut parler des Subcom, qui est l'école de communication, la grande école de communication. On peut parler aussi des FET Studio Créa, l'école de design graphique et numérique, aussi l'école d'immobilier. Puis, nous avons des écoles aussi de management, des business schools, comme PPA et PPA Sport. Puis bientôt, nous aurons 5 nouvelles écoles à la rentrée dont nous allions peut-être parler.
Eh bien, effectivement, pourquoi pas. Alors, parmi ces nouvelles écoles, lesquelles avons-nous, Aline Chaffanjon ?
Alors, une école de mode qui s'appelle Mode Art, une école de journalisme. Voilà.
Donc ça, c'est bien. Ça manquait sur le territoire.
Et voilà, tout à fait. Mais l'ISFJ, une école d'audiovisuel, LISA, une école de marketing du luxe, le IML. Et puis, pour finir, une école de photo, Effet Photo.
Et on se rend compte, Aline Chaffanjon, qu'avec les écoles qui existent déjà sur le campus Éductive Reims, les 7 écoles qui sont déjà en place et les 5 nouvelles qui arrivent à la rentrée, il y a quand même des passerelles qui peuvent exister entre les différentes formations.
En effet, nous pouvons régulièrement faire travailler tous nos étudiants ensemble sur des projets communs. Alors par exemple, nous avons travaillé sur le projet The Artist, qui est un projet culturel sur lequel les étudiants de 3 écoles ont travaillé. Nos étudiants de l'école d'art, donc des FET Studio Créa, mais également les étudiants des Subcom, donc en communication, qui ont travaillé sur le plan de communication. Et puis les étudiants de PPA qui ont travaillé sur le mécénat de l'événement, mais aussi d'autres projets comme le projet Center Parks, où les étudiants ont travaillé notamment les PPA Marketing sur le développement du maïs. Voilà.
L'avantage de ces passerelles, c'est de créer une véritable synergie à la fois entre les étudiants pour créer une vie de campus animée et aussi entre les différents intervenants pour qu'ils apprennent à travailler ensemble.
Exactement. Nos étudiants apprennent à travailler ensemble. On travaille donc sur des projets communs. Quand les étudiants de l'ESGI, donc l'école de sécurité informatique, travaillent avec les étudiants des Subcom ou de l'école de design, par exemple, l'autre jour, nous avons fait une LAN party avec les étudiants de l'ESGI. Et lors de cette LAN party, ce sont les étudiants d'Effet Studio Créa qui ont créé le logo de cette LAN party. Donc régulièrement, ils sont amenés à se rencontrer, à travailler ensemble sur des projets communs, soit internes au campus, soit externes au campus, sur notamment des séminaires sur lesquels ils vont travailler sur des problématiques du territoire, des entreprises du territoire, des projets concrets.
Ça, c'est important justement d'être vraiment en cohésion avec ce qu'il se passe sur Reims et ses alentours, avec aussi les entreprises, etc., dans une réalité économique du territoire.
Effectivement, les écoles que nous avons aujourd'hui répondent aux besoins du territoire et des entreprises. Ce qui est important de souligner, c'est que 95% de nos étudiants sont en alternance. Donc, ils sont dans les entreprises du territoire, ils travaillent dans les entreprises du territoire en étant alternants. De ce fait, l'alternance leur permet d'acquérir directement des connaissances et de pouvoir exercer leurs compétences. Mais ce que je voulais dire par là, c'était plus que tout ce qu'ils apprennent à l'école pendant leur journée au sein du campus, ils peuvent le mettre en pratique dans leur entreprise et du coup ça leur permet d'être employables plus rapidement aux sorties de leurs études. Il faut savoir que 96% de nos étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent la formation.
C'est vrai qu'Aline Chaffanjon, l'alternance c'est le vrai plus du réseau Éductive et de ces 12 écoles pour le campus Éductive Reims. Ça permet, vous me passerez l'expression, mais d'avoir les mains dans le cambouis directement pour les étudiants quoi concrètement.
C'est ça, on peut dire ça. Les étudiants travaillent tout de suite sur des choses concrètes donc finalement ils savent tout de suite répondre aux besoins des employeurs.
Des choses concrètes en entreprise, vous venez de le dire, avec l'alternance évidemment. Des choses concrètes également qui sont vues sur le campus. Vous aviez donné quelques exemples il y a quelques instants, Lynch à Fajon. Mais il faut aussi parler du partage d'expérience qui se fait avec des professionnels, puisque les étudiants n'ont pas affaire à des professeurs, mais à des intervenants qui dispensent des cours. Ça enrichit l'expérience professionnelle quand même.
En effet, tous nos intervenants sont des intervenants professionnels. Ils viennent dispenser leur savoir, ils viennent partager leurs expériences avec nos étudiants. Alors tout ça est très encadré, hein, ils viennent pas la fleur au fusil dispenser des cours, nous les formons. Donc oui, en effet, ce sont des intervenants professionnels qui viennent. Donc les étudiants sont friands des intervenants professionnels parce qu'ils ont tout de suite les anecdotes, ils sont tout de suite confrontés aux problématiques et aux besoins des entreprises. Donc c'est un vrai atout.
Avec à la fin différents diplômes qui vont du BTS, du bachelor jusqu'au master, qui sont des diplômes reconnus par l'État et formation certifiée Calliope.
Tout à fait. Tous nos titres sont reconnus par l'État, par le ministère du Travail, puisque c'est en alternance. Et effectivement, c'est Calliope qui nous valide, si vous voulez, le fait de pouvoir être organisme de formation.
Parce que ça peut faire peur un petit peu parfois aux parents de se demander où ils inscrivent leurs enfants et quel sera leur avenir. Donc c'est quand même bien aussi de savoir que voilà, lorsque l'on s'inscrit à une formation sur le campus éductif, eh bien finalement, derrière, on est assuré que notre diplôme vaut quelque chose sur le marché du travail.
Tout à fait. Nos diplômes valent quelque chose sur le marché du travail. Donc les BTS, ben, comme son nom l'indique, ce sont des BTS en 2 ans, donc des titres d'État. Et puis bachelor et master, ce sont des diplômes donc en 3 et 5 ans qui permettent aux étudiants d'avoir un bac plus 3 ou un bac plus 5 et un bac plus 2 pour le BTS.
Avec quelques zooms, si vous le voulez bien, à Lynch à Fajon sur les autres plus du campus, on pense au service relations entreprises, indispensable.
Bien sûr, pour un campus où il y a 95% d'étudiants en alternance, il faut un service des relations entreprises performant. Alors le service des relations entreprises est là pour aider les étudiants à trouver leur entreprise, à être en alternance. Pour ça, ils vont les accompagner tout au long de leur scolarité, ils vont les former, ils vont les aider à constituer leur CV, ils vont faire des coachings, des speed meetings pour que les étudiants puissent trouver leur entreprise de leur rêve ou l'entreprise adéquate en fonction de leurs besoins.
Notre invitée aujourd'hui, Aline Chaffajon, directrice du campus éductif Reims. Si vous êtes avec nous, ce n'est pas un hasard puisque la rentrée de septembre, finalement, elle se prépare maintenant. Est-ce que pour rejoindre le campus éductif et ses différentes écoles, on passe par Parcoursup ?
Pour certaines de nos écoles, oui, notamment les BTS. Et autrement, c'est directement sur le site de notre campus, donc reims.eductive.fr, où vous pourrez directement candidater en ligne. Alors, il faut préciser que c'est un concours, mais il est gratuit. Donc, les étudiants peuvent s'inscrire. Et avant ça, s'ils souhaitent, ils peuvent se renseigner sur nos diverses formations par différents biais. Alors, on peut éventuellement évoquer les journées portes ouvertes, mais aussi le salon Studierama. Le salon Studierama a lieu le 20 janvier. Et puis également le 27 janvier où nous avons des journées portes ouvertes. Donc si parents et étudiants souhaitent venir prendre des informations avant une possible candidature, surtout n'hésitez pas à venir me voir soit sur les stands, soit directement sur le campus.
Justement, on parlait des modalités d'inscription en passant par le concours. C'est vrai que le concours, ça peut être un petit peu anxiogène, mais le véritable avantage, c'est que une fois que l'on est inscrit, terminer Parcoursup, ça évite le stress en même temps que de passer le baccalauréat, etc. C'est quand même un soulagement finalement.
C'est-à-dire qu'on peut tout de suite venir candidater chez nous et vous aurez une réponse sous une semaine. À partir du moment où vous candidatez chez nous et vous passez le concours, vous avez sous une semaine votre réponse. Et d'ailleurs, pour information, le prochain concours, c'est le 17 janvier en distanciel et le deuxième est le 27 janvier en présentiel.
Et puis, une fois que l'on a ces informations, lorsqu'on est étudiant, ça permet à la fois aux futurs étudiants, mais aussi aux parents, de se projeter aussi bien financièrement que sur le plan de l'hébergement et sur la vie étudiante en général. Donc, c'est vrai que c'est quand même un point en moins.
Mais quand vous venez aux journées portes ouvertes, si vous venez, on peut effectivement vous donner les contacts de tous nos partenaires concernant le logement, hein, pour aider les étudiants à trouver un logement sur Reims, mais également des partenaires financiers comme par exemple LCL, la banque qui peut vous proposer éventuellement des prêts à des taux très intéressants et négociés par nous.
C'est vrai que l'on parle beaucoup, Aline Chaffajon, des étudiants qui sont en post-bac, mais on peut aussi rejoindre le campus éductif à différents niveaux.
Tout à fait, on peut rejoindre le campus en bac plus 2 quand vous avez fait un BTS avant, par exemple en bac plus 2, en bac plus 3, mais également en bac plus 4. Voilà, on peut accueillir les étudiants à chaque moment de la scolarité.
On a donné des rendez-vous pour le mois de janvier, notamment pour les concours, notamment aussi pour les salons Studierama pour les portes ouvertes. Si jamais les gens ne peuvent pas se rendre à ces événements, il y a toujours le site internet de toute façon pour se renseigner. Et puis les portes ouvertes, vous les renouvelez, même les phases d'inscription, etc. Tout au long de l'année maintenant, jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août et même jusqu'au mois de septembre de la rentrée prochaine, il sera possible de rejoindre les différentes écoles.
Exactement. Tous les mois, nous avons des journées portes ouvertes et des concours régulièrement. Donc n'hésitez pas à nous contacter via le site internet. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Quant à vos questions sur les moments de rencontre, les journées portes ouvertes, les salons, tous les moments clés du campus.
Eh bien, puisqu'on est toujours plus rassuré quand on rencontre le personnel, quand on visite les lieux, les prochains rendez-vous, c'est sur le salon Studirama, ça sera le 20 janvier et le 27 janvier, les journées portes ouvertes sur le campus Éductive Reims, 46 rue de la Justice. Merci Aline Chaffanjon.
Merci Alexis.
Et puis on vous dit à très bientôt avec de nouvelles actualités. Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Hier soir, sur RCF en Sardaigne, on a commencé à parler sport et chrétienté avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes et président de la Conférence des évêques de France. Et on avait promis de se retrouver aujourd'hui pour approfondir le sujet. Mgr est en studio, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de recommencer.
On avait terminé en se questionnant sur l'héritage de la religion catholique dans l'histoire du sport, aujourd'hui notamment en France. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi, rendez-vous sur le site www.rcf.fr. Dans sélectionnant votre radio RCF en Sardaigne, vous choisissez dans la rubrique programme Sportiplex Le Mag. Aujourd'hui, zoom sur l'évolution de la société qui marque la fin progressive des liens, clubs sportifs et connotations religieuses, d'abord remplacés par des noms hommage à des personnalités de la ville. Ça a été le cas à Sedan, avec les stades qui sont d'abord appelés Émile Albault, Louis Dugoguez, à Reims, Auguste Delaune. On sent que c'est des personnalités qui sont mises en avant plutôt que des personnalités religieuses. Et puis, des partenariats d'un nouveau genre, même désormais. On pense à la salle de basket à Charleville-Mézières, qui s'appelait la Caisse d'Épargne Arena, puis depuis quelques mois maintenant, la Guinguette Arena. Est-ce une perte de l'histoire, quelque part, Mgr, que ces salles, ces stades soient renommés par des noms de personnalités politiques ou par des namings, plutôt que par les liens historiques qui les relient à la religion et donc à l'histoire de France, quelque part.
On voit qu'il y a une histoire qui avance, donc il y a une mémoire qui s'effiloche, donc on oublie un peu l'origine de tous ces clubs, en tout cas de beaucoup d'entre eux. Et puis, des caractéristiques aujourd'hui que ben, on veut honorer ceux qui apportent de l'argent. Une chose nouvelle dans le sport à tous les niveaux, c'est la place considérable que l'argent y joue, parce qu'il faut mobiliser des sommes importantes pour avoir des sportifs de bon niveau. Ça, ça a été un immense changement par rapport au tout commencement du sport au 19e et 20e siècle.
Alors, si l'on fait un flashback dans le temps, pendant un temps, le vocabulaire employé aussi dans le commentaire, notamment de certains matchs, avait une connotation religieuse. Quelques exemples dans le football: il a crucifié le gardien, la messe est dite, un score nul et vierge, parmi une liste non exhaustive, Mgr. Ces façons de dire, selon vous, avaient-elles leur place dans le commentaire sportif? Parce que c'est assez étonnant.
Oui, elles indiquent deux choses. D'abord, que ceux qui commentaient, ceux qui écoutaient, d'abord, avaient ce vocabulaire-là en commun, donc ils savaient de quoi il s'agissait, ils comprenaient de quoi il s'agissait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ces mots indiquent une espèce d'événement, un événement dramatique. C'est-à-dire, il se joue quelque chose, et puis il y a une issue inespéré. Et en fait, c'est ce que nous célébrons chaque dimanche. C'est-à-dire, je pense que beaucoup de gens ont l'image de la messe comme une espèce de répétition de rites toujours les mêmes et un peu anodines. Et en fait, tous ces mots expriment une réalité beaucoup plus profonde de la messe, qui est que c'est un acte, il y a un sacrifice, quelqu'un est livré pour nous et sort vainqueur de la mort. Et finalement, c'est ce qui se joue dans chaque match. Quand il y a un peu d'action, un peu de tension, il s'y passe un drame, quelqu'un pourrait être vaincu et puis, dans le meilleur des cas, va sortir vainqueur. Mais éventuellement, dans le sport, heureusement, si, même s'il est vaincu mais qu'il a bien joué, il peut sortir honoré, alors même qu'il a passé par des moments difficiles. Donc ce caractère dramatique de chaque match, ce caractère d'événement de chaque match, eh bien, est exprimé avec un vocabulaire religieux, parce que pour nous catholiques, c'est ce qui se passe dans chaque messe célébrée chaque dimanche et chaque jour.
Aujourd'hui, toutes ces expressions, si on continue de faire le lien entre l'histoire et la religion, elles semblent un petit peu sacrifiées finalement au profit d'un vocabulaire, j'allais dire, plus épuré, plus laïque. Encore une fois, est-ce que c'est le sens logique de l'histoire, de l'évolution de la société, ou comment on peut l'expliquer?
Alors je ne sais pas si c'est le sens logique de l'histoire et de la société. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes de plus en plus une société des loisirs, d'une part, ensuite d'une société du marché. On voit bien que l'imaginaire a tendance à être imaginaire qui était nourri de grands symboles religieux, de grands faits religieux, et de plus en plus nourri de réalités purement commerciales. On voit aujourd'hui la tentative d'un certain nombre de lieux ou de personnes de rebaptiser Noël, pas parler de Noël, mais des fêtes de l'hiver. On met plus en avant un Black Friday que le mystère même de Noël, et au lieu de fêter une réalité qui a du contenu, la naissance d'un enfant et d'un sauveur, eh bien on va préférer mettre en avant le côté purement festif et les soldes, les promotions qui sont faites à cette occasion-là. Je ne suis pas sûr d'y voir un progrès de l'humanité, donc je ne sais pas si c'est une évolution logique, mais c'est l'évolution que nous vivons, parce que nous sommes dans des sociétés de plus en plus marchandisées.
Dans ce contexte que vous décrivez, Mgr, comment transmettre aujourd'hui alors ce passé historique qui se perd de différentes manières, comme on l'avait vu avec vous lors de la dernière émission, comme on le voit encore aujourd'hui?
Eh bien, déjà, en faisant ce que vous faites, c'est-à-dire en le rappelant, c'est toujours utile et intéressant pour que tous ceux qui pratiquent un sport aussi se rendent compte du terreau humain et même spirituel dans lequel le sport s'est développé, que les uns et les autres nous aidions dans la pratique sportive à dépasser un narcissisme un peu superficiel, la vanité ou l'orgueil toujours possible, mais que nous vivions davantage ce caractère dramatique que j'évoquais, qui peut y avoir dans chaque activité sportive. Parce que dans l'activité sportive, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même, et en même temps, le résultat ne dépend pas que de l'engagement de chacun. Si dans une usine, normalement, si on met tous les éléments nécessaires, on sait à l'avance ce qui va sortir. Dans un match, on ne sait jamais ce qui va déboucher, et même si je fais de la course à pied tout seul, etc., je ne sais jamais si je vais réussir à améliorer mes performances. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que je ne suis pas seul en jeu, et que mon engagement à moi est pris dans une réalité qui est plus grande que moi, et c'est ça qui fait aussi la grandeur de l'humanité. Et pourtant, essayer de percer et de faire déboucher son individualité.
Les sportifs, les athlètes, eux aussi ne sont pas seuls, Monseigneur, comme vous venez de le dire, et bien souvent ils s'en remettent à Dieu pour gagner un match, une compétition, guérir d'une blessure. La religion a un véritable impact. On a des exemples de sportifs connus internationalement. On va citer par exemple Olivier Giroud, joueur de foot au Milan AC, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Il a déclaré « Je suis armé du bouclier de la foi ». Il a fait toute une biographie où il explique comment il vit sa foi, sa spiritualité. Nous avons un autre exemple, Stephen Curry en NBA, qui est meneur des Golden State Warriors, qui disait « Je savais que le Seigneur était en train de me préparer par une plus grande étape pour le représenter et être son témoin sur le terrain de basketball. Je me souviens de ma mère me disant lors de mon premier jour à Davidson que Dieu place son peuple dans différentes sphères de la vie afin qu'il puisse atteindre davantage de personnes pour lui. J'essaye d'utiliser ce moment pour sa gloire. » Ou encore, autre exemple, Teddy Riner, judoka, 11 fois champion du monde, 3 fois champion olympique. « Pour moi, c'est le Seigneur qui m'a désigné ce chemin. » Des témoignages que l'on retrouve chez de nombreux athlètes, comme avec Emmanuel Agbadou, défenseur central du stade de Reims.
On a essayé de le reproduire et par la grâce de Dieu, ça a bien marché.
Alors il en parle pour les scénarios d'un match, comme on vient de l'entendre, mais il en parle à chaque conférence de presse quasiment, comme au moment d'évoquer la place de Reims en championnat par exemple.
Notre objectif, c'est de finir plus haut, évidemment. Après, si par la grâce de Dieu, on a été là-bas, Dieu merci, mais on ne se prend pas la tête.
Quel est votre regard, Monseigneur, justement, sur l'ensemble de ces sportifs, de ces athlètes, sur cette façon de vivre foi et sport en même temps ?
Bien, je reviens à ce que je disais un peu la semaine dernière et tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a au moins trois éléments dans le sport, d'abord, et pour les sportifs. D'abord, les grands sportifs, ils ont des dons. Et pourquoi eux ont-ils cette capacité ? Parce que, bien sûr, il faut s'entraîner, etc. Mais personnellement, moi, si je ne fais pas beaucoup de sport, c'est parce que je suis extrêmement maladroit. Quand je joue au tennis, toutes mes raquettes étaient trouées. La balle avait la fâcheuse tendance à aller frapper plutôt le rebord que le centre de la raquette. Alors que voilà, il y a des gens qui trouvent tout de suite la bonne adéquation. Donc, il y a un aspect de don. Pourquoi est-ce que moi j'ai ce don-là et pas autre chose? Et qu'est-ce que j'en fais? Alors, je peux me complaire dans un certain narcissisme ou dans l'orgueil, mais je peux au contraire y voir un appel à ce que je disais la semaine dernière, c'est-à-dire une espèce de dépassement de soi. Voilà, qui est une manière de devenir soi-même en allant un peu au-delà de soi-même. Et tous ces sportifs que vous avez évoqués disent bien cela. Et puis, ben voilà, dans un match, il y a un drame, ce que je disais en commençant. On s'engage à fond, il se joue quelque chose qui peut être une victoire ou une défaite, et finalement, on débouche victorieux. Et ou plus grand, même si on est vaincu, on débouche plus grand parce qu'on s'est bien battu.
Au sein de votre parcours de prêtre, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, est-ce que vous avez rencontré des sportifs, amateurs ou professionnels qui vous ont témoigné ou demandé d'agir pour eux sur le plan sportif, sur le plan médical ?
Alors moi, je veux la rendre grâce le jour d'être sollicité. À l'époque, j'étais secrétaire de Monseigneur 23, archevêque de Paris. J'étais sollicité par Jacques Vendroux pour obtenir pour le Variété Club de France un voyage au Vatican et une rencontre avec le pape à l'époque, Benoît XVI. Il se trouve que j'étais secrétaire, je suis devenu entre-temps évêque auxiliaire et j'ai pu accompagner ce voyage. C'était pour moi un moment très intéressant. Un beau souvenir dans ma vie de prêtre et d'évêque.
Eh bien justement, Jacques Vendroux, journaliste radio bien connu, qui a fait ses débuts en 1966 à l'ERTF, qui est aujourd'hui sur Europe 1. Il est président du Variété Club de France. Il se souvient de cette aventure, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
C'est vrai que grâce à lui, il y a quelques années, on a été reçu au Vatican par Benoît XVI et on a fait un voyage extraordinaire. On avait joué contre les gardes suisses sur le terrain d'entraînement de la Roma. C'est Michel Platini qui avait organisé le match. Et Éric de Moulin-Beaufort, eh bien, nous a facilité les choses. On a pu rencontrer Benoît XVI, on a pu échanger avec lui. Et c'est vrai que ça a été un moment extraordinaire de catholicisme, en fait, parce que c'est vrai que la délégation du Variété Club de France a fait un voyage merveilleux. On a découvert Rome, on a découvert le Vatican. On a eu la chance de pouvoir converser brièvement avec Benoît XVI, tout ça grâce à Éric de Moulin-Beaufort. Et c'est vrai que c'est un souvenir extraordinaire, extraordinaire.
Et là, vous voyez, Monseigneur, que ça laisse des traces chez Jacques Vendroux, mais certainement aussi dans l'ensemble des membres du Variété Club de France qui ont participé à ce pèlerinage avec vous.
Ben, ça en laisse aussi en moi, je dois dire. J'étais très ému de présenter au pape. Alors, c'était Marius Trésor et puis Thierry Roland, décédé aujourd'hui. Et j'étais très ému de voir combien les uns et les autres étaient heureux de ce moment, qui justement, il me semble, donner au sport et aux sportifs une grande dignité, parce que ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à tout un vocabulaire, peut-être tout un système aussi pour les sportifs de haut niveau. C'est le côté un peu marchand d'esclaves quand même, ou marchand de gladiateurs, disons. On achète un joueur, on le vend, etc. Ce sont des êtres humains. On voit bien qu'il y a un caractère analogique, mais c'est assez étonnant qu'on retrouve, on retombe dans un vocabulaire de marchand de gladiateurs à l'époque romaine, pour fournir du spectacle à l'humanité entière. Et voilà, il me semble que dans un voyage comme celui-là, ils en ont refait un d'ailleurs au Vatican plus récemment avec Mgr Gobillard, évêque de Digne, qui lui est un vrai sportif, qui connaît bien tout ça et d'ailleurs représente le Saint-Siège dans la préparation des Jeux Olympiques qui se préparent pour 2024, hein, pour l'année prochaine, l'année qui vient. Voilà, donc un voyage comme au Vatican, la rencontre avec le pape, donner la dignité humaine de chacun de ces sportifs au-delà de savoir quelle est sa valeur sur le marché.
Vous parliez, Monseigneur, à l'instant de Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque de Digne. Lui-même joue au sein du Variété Club de France que préside Jacques Vendroux. On va être un petit peu moins sérieux, quoique, pour la fin de cette émission, pour les dernières questions, Monseigneur, est-ce que vous, un jour, chaussez les crampons pour jouer avec le Variété Club de France? Ça vous tente?
Moi, en fait, je suis très maladroit au foot, mais j'aime bien jouer au foot, parce qu'on court derrière un ballon, ça courir, je sais faire, et puis on peut crier de temps en temps, et j'aime bien aussi.
Vous pourriez être un bon capitaine d'équipe, vous êtes également président de la Conférence des évêques de France, et savoir être à l'écoute, savoir distribuer aussi les rôles quand il le faut, ça pourrait bien fonctionner, Monseigneur.
En tout cas, c'est une belle analogie.
On a demandé à Jacques Vendroux, justement, si vous pourriez avoir votre place au sein du 11 du Variété Club de France.
Éric de Moulin-Beaufort peut me demander ce qu'il veut. Voilà, si un jour il veut jouer avec le Variété Club de France, il sera le bienvenu. Et Éric de Moulin-Beaufort fait partie des belles personnes que j'ai eu la chance de rencontrer.
Vous l'avez compris, Monseigneur, si l'envie vous prend, il n'y a plus qu'à, vous êtes le bienvenu au sein du Variété. Pour la suite, je vous laisse voir directement avec Jacques Vendroux ce qu'il peut
en merci être. Merci beaucoup, je suis très ému.
En tout cas, Monseigneur, le temps presse, donc avant de refermer ce chapitre, pour vous remercier d'avoir participé à ces deux émissions en cette période de fête de Noël, nous vous remettons un petit cadeau qu'on vous laisse découvrir. On explique aux auditeurs un temps de quoi il s'agit. C'est un livre, voilà, on vous spoil un petit peu, vous qui êtes en train de déballer le paquet, mais vous l'avez certainement bien senti, qui parle de football et de religion, qui est dédicacé d'ailleurs par l'auteur. Le livre s'appelle Dieu Football Club. Il est écrit par Nicolas Villas, journaliste à RMC Sport. Il a été publié en 2014 aux éditions Hugo Sport. C'est de la seconde main, vous l'aurez remarqué, hein, Monseigneur, car il n'est plus imprimé, mais on vous souhaite en tout cas une très bonne lecture.
Merci beaucoup. Alors, je dirais ça avec beaucoup d'intérêt.
Encore merci, Monseigneur, de nous avoir fait l'amitié de venir parler de sport et de religion avec nous. Et on vous retrouve avec Jean-Pierre Benoît le vendredi matin dans Parole d'évêque. C'est une fois toutes les deux semaines, en alternance avec votre auxiliaire, Monseigneur Étienne Véteux. À très bientôt, Monseigneur.
Merci, Alexis. Merci à toutes et à tous.
On est ensemble jusqu'à 19h, le temps de revenir sur quelques sujets avec notre chroniqueur Claude Ruiz qui pose son regard sur ce qu'il se passe dans les villes en période de fête. Claude, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques temps, on avait parlé des fêtes et des glorifications de certains lieux. Aujourd'hui, après avoir abordé l'existence des lieux, résidence des dieux ou lieux fortement valorisés, en particulier lors des fêtes ou cérémonies religieuses, les lieux, ce sont aussi des lieux habités, en particulier les villes. Que peut-on prendre comme exemple, Claude Ruiz?
Alors, les villes, les anciennes cités sont évidemment des lieux de sédimentation un petit peu historique. Ce sont des centres de l'expression religieuse. Bien entendu, nous l'avons vu dans une précédente émission, les montagnes, les éléments remarquables sur le plan topographique peuvent être des lieux divins. Mais bien entendu, c'est là où il y a la société, où on se rencontre, où on parle, où on réfléchit, qu'il y a cette expression religieuse. Et donc, les villes sont des centres de l'expression religieuse. Alors, bien entendu, pour les chrétiens, on peut citer Jérusalem et le mont du Temple. Là, c'est à la fois un élément urbain et puis un élément topographique remarquable. Jérusalem, on a l'impression que le monde entier s'est donné rendez-vous dans cette vieille cité. Je dirais à la fois, c'était vrai pour nous en termes historiques, dans le monde romain, c'était un lieu de rencontre, d'échange entre les flux venant d'Occident, on va dire, hein, de la Méditerranée et d'autre part d'Afrique ou d'Asie. Donc par conséquent, ça a toujours été un lieu assez mélangé.
Vous prenez l'exemple de Jérusalem, Claude Ruiz. C'est vrai qu'on met souvent en avant que Jérusalem est une ancienne cité au cœur de trois religions.
Oui, cette cité qui, donc sur le temps, s'est aussi structurée par rapport aux groupes dominants, ceux qui vont mettre en avant en particulier le judaïsme. Mais cette vieille cité, c'est une sorte de labyrinthe cerné de murs qui contient une foule mélangée, c'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois des kippas, des robes monacales, des djellabas, mais je dirais aujourd'hui des jeans, des casquettes de baseball ou autre, même si de temps en temps, il y a des contraintes sur certains lieu où on ne peut pas arriver n'importe comment. Du fait justement du poids religieux pour la plupart des groupes qui vivent, qui viennent, qui visitent ce lieu. Donc l'air est chargé, je dirais, d'épices, d'encens, dont vous voyez c'est encore mélangé. Donc l'expression religieuse carillon des cloches, appel du muezzin, célébration d'une bar mitzvah donc pour le monde juif. Donc cette ville, c'est une concentration de foi et de gens qui se rencontrent sur la base de la foi, et c'est quelque chose qui est assez remarquable.
Pourquoi dit-on que c'est une des plus vieilles cités du monde ?
Alors les premières occupations ont eu lieu vraisemblablement il y a plus de 5000 ans, et ces cités de petites dimensions bien entendu au départ, qui sont simplement des groupements de population, c'est un endroit qui a été de multiples fois assiégé, envahi, occupé. Donc vous voyez, il y a eu déjà aussi un mélange de populations et de groupes qui ont structuré un petit peu l'espace, plus ou moins de façon remarquable, mais la ville, elle a toujours été, je dirais, survivante. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait la puissance de Jérusalem, c'est que, quels que soient les conflits, les combats qu'il y a eu entre les groupes, elle a toujours connu une renaissance. On est bien un petit peu dans ce cadre-là. Et elle est toujours survivante, c'est la destination des pèlerinages religieux, en particulier des trois monothéismes qui ont marqué le plus à la fois la région, l'espace, et même aujourd'hui, vous le savez, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ont joué un rôle chacun, mis en avant en réalité un espace pour les juifs. Sur place, ça sera, on va dire, je cite quelques exemples, on pourrait discuter vraisemblablement sur les deux ou trois points, le mont du temple, le lieu où Dieu, en fin de compte, dans le Talmud, ramasse la terre pour créer Adam. Donc vous voyez, ça c'est un lieu plus que sacré. C'est le sacrifice d'Isaac, c'est le premier temple au 10e siècle avant Jésus-Christ, par Salomon. Donc oui, il y a des lieux remarquables qui vont jouer. Mais même en petit, c'est toujours un rôle essentiel. Pour les musulmans, c'est un site, le troisième site d'où part Mahomet pour son voyage. Donc la mosquée sur le dôme du rocher, ben, là aussi, c'est un lieu sacré. Quant aux chrétiens, le mont du temple, lieu des prêches et de guérison donc, de Jésus, lieu de la révolte aussi, lieu du dernier repas. Enfin, je ne vais pas vous reprendre les éléments sur un espace de quelques hectomètres en réalité. Donc on voit là, je dirais, la puissance en fin de compte de l'histoire qui se retrouve dans ces domaines.
Aujourd'hui, ce lieu de spiritualité peut-il résister au contrôle de sécurité, Claude ?
Oui, vous avez raison. C'est, puisqu'on parle qu'il y a beaucoup de monde, que c'est très important, ça veut dire que c'est un espace où beaucoup de populations qui peuvent avoir de temps en temps, pas toujours, ça c'est l'expression aussi des rivalités mondiales, on est obligé en fin de compte de surveiller pour protéger ces lieux, puisque je dirais de nombreuses sociétés en font un lieu essentiel sur le plan religieux. Donc là, il y a adaptation et partage. Donc, vous le savez, on se partage en fin de compte souvent les lieux. Pour les juifs, le mur des lamentations occidental, donc il ne faut pas le profaner, donc c'est quelque chose qu'il faut protéger. Pour les musulmans, c'est le dôme du rocher. Pour les chrétiens, c'est le Saint-Sépulcre. Donc vous le voyez, comment organiser, c'est un vrai casse-tête d'organiser et de permettre en réalité à des populations qui, presque toutes, mettent en avant la pacification, mais qui, sur le terrain, quand on se rend compte, c'est comme des voisins, vous savez, de part et d'autre, d'une frontière au fond du jardin, c'est relativement difficile, c'est un vrai casse-tête, en particulier pour l'État israélien.
Une problématique d'ailleurs, Claude Ruiz, que l'on retrouve souvent dans les grandes villes religieuses.
Oui, c'est pareil, on retrouve ce phénomène de concentration. Alors là, on a parlé de Jérusalem parce que c'est une des plus importantes. Après, il y a des religions qui sont plus en marge, à la fois géographiquement. On pourrait citer par exemple Kyoto, au Japon. Vous savez, c'est un ensemble d'îles avec 4 ou 5 îles principales. L'île centrale qui s'appelle Honshu. Et Kyoto était une capitale impériale, donc symbole du métissage culturel. C'est-à-dire des Japonais du Nord, proche des milieux froids, des Japonais en fin de compte du monde équatorial déjà, tropical équatorial. Donc on voit que là aussi à Kyoto, les espaces, suivant que la religion, les sectes on va dire, évoluent pas au sens négatif, au sens de réflexion religieuse, sont séparés par des torii, des portails. Alors il y a les portails shintoïstes traditionnels qui jouent un grand rôle dans la géographie donc d'une ville religieuse comme Kyoto. Il y a ces portails, en fin de compte, sont l'entrée vers des jardins ou des temples. Chaque torii est un passage et bien entendu, c'est souvent des groupes qui financent le torii qui permet le passage dans un lieu particulier. Donc vous le voyez, les résultats de conflits peuvent se faire aussi, pas seulement à l'intérieur des religions je dirais japonaises, mais aussi du bouddhisme qui est arrivé du nord. Donc là, les tensions peuvent se retrouver dans ces espaces.
Avant de terminer, Claude Ruiz, juste d'un mot, qu'est-ce qui a provoqué le développement de Kyoto ? Qu'est-ce qui fait que Kyoto continue de se développer aussi aujourd'hui d'ailleurs ?
Les investissements à l'échelle l'échelle historique, les investissements, ça a été du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir religieux. C'était le mélange des fonctions politiques et religieuses qui a amené un rôle culturel. C'est là où on avait les meilleurs artisans. Et quand vous cherchez, en fin de compte, sur l'artisanat japonais, c'est souvent le lieu, même encore actuellement. Et donc, ça a été le lieu d'une très, très forte spiritualité.
Merci, Claude Ruiz. À très bientôt.
Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine local avec quelques explications musicales. Francis Albou et Jean-Marie Beaupuis nous proposent un tour d'Europe des musiques.
Chers amis auditeurs de RCF, bonjour. Aujourd'hui, pour parler d'Europe, eh bien, nous allons examiner une formule très particulière, celle de la musique et des musiciens qui ont bâti notre Europe. Comme vous le savez, l'Europe s'est faite par sédimentations successives. Bien sûr, il y a eu l'Europe chrétienne qui s'est étendue du sud au nord, de l'est à l'ouest de notre continent. Il y a eu l'Europe des armées, des invasions, bien entendu, des empires. Il y a eu l'Europe des arts, ses peintres, ses auteurs et bien sûr l'Europe des musiques. Pour nous parler de l'Europe des musiques, j'ai invité aujourd'hui Francis Albou. Monsieur Albou, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien sûr Francis Albou. Il me disait justement en préparant cette émission combien l'interpénétration des musiques, combien les frontières en définitive politiques que nous connaissons aujourd'hui et qui étaient celles très différentes de celles d'hier, eh bien les musiques se déplaçaient sur notre continent au fil des 15e, 16e, 17e, voire 19e siècle. Monsieur Albou, comment pouvons-nous introduire ce sujet ?
La musique est quelque chose d'européens dans la mesure où tous les instruments rayonnaient dans tous les pays d'Europe, du nord au sud, d'est en ouest, et aussi tout ce qui caractérisait les rythmes de cette musique que donnaient les instruments. Et les rythmes de cette musique sont des rythmes que l'on retrouvait dans les danses européennes. Et par l'intermédiaire de la danse, la musique européenne rayonne sur toute sa superficie du nord au sud, comme je le disais, et d'est en ouest.
C'est ça, on faisait fi des frontières, des comtés, des duchés.
Voilà, alors, les provinces avaient chacune ses particularismes musicaux, ses rythmes particuliers, et la France était très friande de danse, et les danses françaises ont essaimé dans l'Europe entière. Il n'y a pas à proprement parler de musique européenne dans la mesure où on pourrait la comparer à de la musique chinoise ou de la musique hindoue. Parce que, en fait, la musique de l'Europe, ce qui va la caractériser, en fait, ce sont ces langues qui viennent de l'indo-européen. Et les langues européennes étant structurées d'une certaine façon, eh bien, la musique qui en découle suit, en gros, les grands canevas des langues indo-européennes.
C'est ça.
Les musiques chinoises, hindoues, japonaises, vietnamiennes sont tout autres et on ne les considère pas du tout de la même façon. Alors pour ce qui est de la musique européenne, en fait, l'Europe se résume jusqu'au milieu du XVIIIe siècle à deux pays essentiellement. D'abord la France, qui est le pays qui a exporté...
Nous pouvons faire cocorico.
Nous pouvons faire cocorico et même plus que ça parce que tout est né dans l'Île-de-France et en particulier en Champagne, puisque notre musicien champenois Guillaume de Machaut va montrer à l'Europe entière comment on compose à plusieurs voix, notamment à trois voix et à quatre voix. Il va aller dans le sud, jusqu'en Italie, même plus bas encore. On pense qu'il est allé à Chypre, mais il a aussi séjourné en Europe de l'Est, en Bohême, à Prague, et il a montré à l'Europe entière comment on écrivait dans le style champenois.
C'est bien la construction d'une Europe musicale.
Voilà. Ce n'est qu'après que les Italiens, qui eux ne chantaient qu'à une seule voix, vont être investis du génie de Guillaume de Machaut et écrire à leur tour à plusieurs voix, tout en exécutant, en utilisant des rythmes de danse qui ont essaimé, comme je le disais, dans tous les pays d'Europe.
C'est cela. Alors, on voit bien là que la source de départ, donc qui plus est, comme nous le disions, de manière très enthousiaste, grâce à la naissance et aux travaux de Guillaume de Machaut, eh bien, cette musique s'est développée. Et il y a des grands compositeurs, évidemment. On pense à Handel pour la Grande-Bretagne, on pense à Bach, on pense à Mozart, etc. Que pouvons-nous dire de l'aspect européen de tous ces grands compositeurs ?
N'oublions pas François Couperin, un grand musicien de l'époque de la jonction entre Louis XIV et Louis XV. Couperin qui avait été le premier à faire la synthèse des deux grands courants musicaux de l'époque, Encore une fois, la musique allemande ne naît que bien plus tard. Il faut attendre après Beethoven pour que la musique vraiment allemande devienne allemande. Nous n'avons que deux musiques en Europe. Alors évidemment, il y a les particularismes de la musique anglaise, de la musique espagnole. Mais les deux grandes cathédrales musicales, c'est d'abord la France et l'Italie. François Couperin a écrit les concerts des goûts réunis. Et les goûts réunis, il s'agissait d'allier le goût français, où la danse tenait une grande place, la danse que l'on pouvait danser physiquement, mais que l'on pouvait simplement ressentir sans la danser physiquement. Et il a associé cette musique du corps, qu'on appelle, si vous voulez, la danse, à la musique de l'esprit, qui était la musique de l'Italie. Pour démontrer cela, les pièces françaises, par exemple, chez Couperin, on peut avoir allemande, courante, sarabande, gigue, qui sont des danses. Alors que dans la musique italienne, on va avoir andante, allegro, adagio, presto. Voilà, musique de l'esprit, musique du corps. Et les deux vont faire la musique, les grandes inventions musicales des 17e et 18e siècles.
Très bien. Alors, vous nous avez juste parlé une seconde de la musique allemande. Vous nous avez choisi une cantate de Jean-Sébastien Bach que l'on va écouter dans quelques instants. Voulez-vous nous la présenter ?
Alors, justement, nous sommes dans la période de l'Avent. Je voudrais vous faire entendre la cantate du premier dimanche de l'Avent de 1714. Bach a 29 ans à l'époque. Et il prend l'hymne de Saint-Ambroise, « Veni Redemptor Gentium », que Luther va traduire en allemand, « Viens maintenant, sauveur des païens, nun komm der Heiden Heiland ». Et comme c'est le début de l'année liturgique, le jeune Bach prend modèle sur l'ouverture d'opéra, qui introduit, qui ouvre donc, qui vient de Jean-Baptiste Lully, qu'on appelle une ouverture à la française, inventée par Lully, qui est un jeune Italien, qui à 8 ans arrive à la cour de France pour que Mademoiselle de Montpensier apprenne l'italien, qui était très à la mode
c'est
à
ça,
l'époque.
C'est ça.
Donc, Bach se souvient de tout cela et il va utiliser une ouverture à la française de type Lully pour dire « Viens maintenant, sauveur des païens, fils unique de la Vierge Marie ». Le troisième vers, c'est pour émerveiller le monde. À ce moment-là, il y a une fugue qui vient d'Italie, la musique spirituelle, da chiesa, comme on disait à l'époque, c'est la musique d'église. Et le dernier vers, le quatrième vers de cette strophe de chorale, que Dieu l'a fait naître ainsi, il reprend le thème du chorale, dont la mélodie elle-même est attribuée à saint Ambroise, 2000 ans, du IVe siècle.
Écoutons maintenant.
Thank you.
Merci Francis Albou, merci Jean-Marie Beaupuis. On vous retrouve tout au long de la saison dans Parlons d'Europe, le magazine des vacances de Noël. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, vendredi, 18h10. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.